Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Make that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Je suis pas là pour vous parler de ma vie, mais il y a quelques temps, comme toutes les séances étaient complètes, je suis allée voir Selma au cinéma. Selma, c'est ce film qui retrace la bataille de Martin Luther King pour obtenir le droit de vote aux personnes noires en 65, il y a donc 50 ans si ma calculette fonctionne. Bon, le film n'est pas ouf, mais Sine qua non, l'émission 7e art de Radio Campus Angers vous l'expliquera mieux que moi. Le film n'est pas ouf donc, mais dans Selma, il y a quelques scènes pendant lesquelles on se surprend à être surpris de la manière dont la population noire a pu être traitée à une époque heureusement révolue. Il y a quelques scènes qui vous ramènent au cours d'anglais de 5e pendant lesquelles vous découvriez qui a été Rosa Parks, pourquoi elle a dû lutter. Ces cours de 5e pendant lesquels vous vous êtes dit, là encore, c'est fou la manière dont la population noire a pu être traitée à une époque heureusement révolue. Et puis voilà, ce matin, comme Radio France a un peu cisaillé son mouvement de grève, j'ai pu écouter les infos. Ça disait ça. Un policier blanc abat un homme noir en lui tirant dans le dos. C'était samedi, en Caroline du Sud, aux États-Unis. C'était au départ un banal contrôle routier, et ça s'est fini avec 8 balles dans le dos.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez une interview du magicien Étienne Saglio qui présente Les Limbes dans le cadre du festival Cirque mardi et mercredi prochain. Ce sera juste après la chronique de Louise, mais d'abord, qui constitue notre nouveau conseil départemental? L'électronique va-t-elle sauver l'économie angevine? La planète électro chavire-t-elle avec Thilassine? Ça et d'autres choses aussi, c'est tout de suite avec Angers Mag.
Donc j'ai pris le filet mignon, parce qu'effectivement, c'est la partie la plus tendre du porc.
Monsieur Gillet, c'est donc élu président du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Bring your palms to the earth, turn the toes, lift the hips and come into a downward facing dog here.
La microélectronique, vous connaissez? L'infiniment petit, aujourd'hui, rime avec circuits électroniques.
Thilassine, filet mignon, élection départementale, yoga, électronique, vous retrouvez tout ça dans le nouveau numéro d'Angers Mag. Bonsoir Sébastien Rochard.
Bonsoir Diffane.
Merci d'être avec nous comme chaque mois pour décrypter l'actualité, une actu très politique puisque le mois de mars était le mois des élections départementales avec un premier chiffre, celui de la participation forcément. Au premier tour, elle était de presque 50% au lieu d'à peine 44% en 2011 et au second tour, elle dépassait les 48% tandis qu'il y a 4 ans, elle peinait à atteindre les 42%. C'est donc pas le four qu'on avait annoncé, si?
C'est une manière de voir les choses, dire que c'est pas un four. En 2011, c'est une élection partielle qui avait peu mobilisé, voilà, parce que ça intéressait pas grand monde. J'ai pas l'impression que ça intéressait beaucoup plus de monde cette année. Après, on est revenu sur des chiffres qui sont inférieurs à la précédente élection, celle qui précédait 2011. Donc non, c'est pas réellement un four, mais ça interroge quand même et les politiques et nous, médias, sur la manière dont on a pu, parler de ces élections départementales. Voilà, c'est un chiffre d'abstention qui reste très très fort quand même.
Et on en a beaucoup parlé via le Front National. Partout, ils ont occupé le terrain, au moins médiatique. Donc, le parti s'était maintenu au second tour dans 8 cantons. Dans le département, il n'en remporte aucun, même pas celui de Longué-Jumelles, où s'était présenté Gaëtan Diran, chef de file du parti dans le département. Quels ont été les éléments de langage au soir du second tour pour le Front National? Comment est-ce qu'ils ont analysé ces résultats? Et nous, comment on peut les analyser? Est-ce que c'est un échec pour le FN qui ne siège pas finalement dans ce conseil départemental? Ou est-ce que c'est une victoire qu'il se soit maintenu dans 8 cantons?
Ce serait quasiment de la malhonnêteté intellectuelle de dire que le FN a vécu un échec sur ses élections départementales. Il suffit de regarder les chiffres, d'où ils partent dans le département. C'est un parti qui, traditionnellement, dans le Maine-et-Loire, fait des scores plutôt très bas. En dessous de 10%, ça c'est sûr. Alors, en territoire rural, entre guillemets, c'est moins vrai, mais à Angers, ils font des scores très très bas, de manière traditionnelle. Et là, ils sont extrêmement hauts, dès le premier tour. Et ils gagnent aussi... Alors, Gaëtan Diran, lui, il est très content, parce qu'il dit que je gagne des voix entre les deux tours. Je gagne des voix entre les deux tours. Donc, il fait comme tous les autres responsables politiques au soir du second tour en préfecture, ils étaient tous contents. Ils trouvaient tous des motifs de satisfaction à gauche, à droite, Gaëtan Diran aussi. Déçu de ne pas avoir de siège, oui, forcément. Après, il partait vraiment de très très loin, quoi. Effectivement, Gaëtan Diran s'est présenté sur un canton où ils avaient fait des bons scores lors des dernières élections. Mais il était face à un conseiller général sortant qui avait déjà des scores très hauts et qui était bien implanté sur son territoire. Voilà, où ils avaient plus d'espoir, c'était sur la triangulaire à Douai-la-Fontaine. C'est pas passé si loin que ça, quoi. Il maintient son score, voire il l'améliore par rapport au premier tour. Benoît Lépine, qui est le numéro 2 du FN en Maine-et-Loire. Donc voilà, le FN fait des bons scores sur ses élections départementales, premier et deuxième tour, c'est indéniable.
Finalement, donc, dans ce conseil départemental, qui profite de changer de nom pour changer de logo et opter pour quelque chose d'assez foufou et rock'n'roll, ce sont 30 élus de droite qui siégeront et 12 élus de gauche, moitié garçon, moitié fille, ça c'est la nouveauté. 30 élus de droite sur 42 contre 28 sur 41 dans le précédent conseil, c'est une victoire pour la majorité départementale, franchement.
Bah, comme je vous l'ai dit à l'instant, tout le monde se réjouit de ce score du deuxième tour. C'est pas le raz-de-marée auquel on pouvait s'attendre pour la droite. Chez Christian Gillet, il y avait de la satisfaction parce que l'équilibre qu'il y avait précédemment est à peu près le même. Et il est encore un peu plus, ça pense encore un peu plus en faveur de la majorité départementale, la majorité dont il est le patron. Après, on sentait une pointe de déception chez lui. Je pense qu'il aurait aimé gagner un ou deux cantons de plus. Pour vraiment avoir une majorité départementale bien assise. Elle l'est déjà, très clairement, hein, 30 contre 12, c'est pas... il fera passer tout ce qu'il veut, quoi, finalement. Mais il y avait une petite pointe de déception chez lui. Ça s'est un peu moins bien passé, notamment du côté d'Angers. La gauche maintient le cap, on va dire, grâce à Angers, principalement, où ils sont encore en tête dans pas mal de cantons, quoi.
Puis il y a des noms qui font partie de l'entourage très proche du maire, Christophe Béchu, dont sa première adjointe dont on va parler tout à l'heure, qui ont perdu dans leur canton. Dans votre tribune de lundi dernier, vous donnez la parole à Shadia Arab, chercheuse en géographie sociale et conseillère municipale et communautaire du groupe Aimé Angers, et elle pose cette question. Dans un contexte national très largement favorable à la droite, cette première élection post-municipale 2014 serait-elle déjà un désaveu de la population angevine, signant sa déception d'une politique hasardeuse et sans vision? Est-ce que vous avez un début de réponse à cette question?
C'est une tribune qu'elle a signée, Shadia Arab, donc les mots sont libres. On était un peu surpris en la découvrant. On trouve que les mots sont forts ne reflète pas totalement la réalité. Parler de désaveu au bout d'un an, je trouve que c'est un peu fort. C'est quand même une forme d'échec pour Christophe Béchu. Je crois que sur l'ensemble des cantons angevins qui concernent la ville d'Angers, il a 100 voix de plus, les groupes de droite, le bloc de droite a 100 voix de plus que le bloc de gauche. C'est beaucoup moins que lors des dernières élections municipales. Donc ça doit lui poser question, effectivement. Il avait envoyé des forces vives de sa propre majorité, des gens dont il est proche. Vous avez cité Michel Moreau, qui est sa première adjointe. Il y avait aussi Caroline Fell sur un autre
canton. Adjointe chargée de l'éducation, c'est ça Caroline Fell.
Ouais. Qui a aussi perdu. Après, il faut voir aussi contre qui ils ont perdu, quoi. Michel Moreau, elle est implantée à Belle-Belle, mais Fatima Tahami, qui est la conseillère générale qui a été élue, aussi. Très implanté. C'est un canton où il y a aussi Beaucouzé. Dans le binôme, il y avait Fatima Tahami et Didier Rouanet, qui est le maire de Beaucouzé. Ce n'était pas forcément des cantons très, très faciles. Caroline Fell non plus. Après, il doit les analyser. Il doit les analyser en disant qu'il n'écrase pas la concurrence et qu'il reste à asseoir sa politique sur le terrain municipal, parce que le seul adjoint qui passe, finalement, c'est Gilles Groussard. Il passe de 40 voix, principalement grâce aux voix de Bushmen et pas à celles de la Roseraie, puisque le canton regroupait et Bushmen et la Roseraie notamment, et Saint-James-sur-Loire. Donc c'est très très juste, et sa majorité n'est pas assise sur le territoire municipal, ça c'est clair.
Question naïve, mais question quand même. Christian Gillet a été réélu à la tête du département. Christian Gillet qui se présentait en binôme avec Frédéric Drouet-Daubigny. Comment se fait-il que ce soit lui qui soit élu président et pas elle? Comment ça fonctionne?
Ah, c'est une très bonne question. Comment ça fonctionne? C'est un vote des conseillers départementaux, tout simplement. Il n'y avait pas de mystère quant au candidat de la majorité départementale. Enfin, pas de mystère. On a pu dire pendant une période qu'on voyait bien l'UMP si elle raflait pas mal de sièges et pas mal de voix au sein de cette majorité départementale tenter un mini putsch, un coup d'État. Mais il s'est très vite avéré au soir du premier tour que ce ne serait pas le cas. Christophe Béchu lui-même avait appelé à voter pour Christian Gillet. Donc on savait de longue date que ce serait lui. Après, il est en binôme avec une femme parce que la loi l'y oblige de toute façon.
Mais on ne pouvait pas imaginer que ce serait elle qui serait élue.
Non, à aucun moment, puisque c'est lui qui portait la majorité départementale, qui est l'ancien président du Conseil général d'ailleurs. Il l'était depuis un peu plus d'un an. Donc il n'y avait pas de mystère vis-à-vis de ça et pas de révolution de palais encore. Aucune femme ne sera présidente du Conseil départemental. Bon. Ce sera pour la prochaine fois.
Parmi les proches de Christophe Béchu qui ont échoué dans leur canton, il y a donc Michel Moreau. Votre rencontre du mois dans GEMAG, elle est première adjointe au maire, vous l'avez dit. Vous précisez que l'interview a été réalisée avant le second tour. Pardon.
Avant, oui.
Donc vous n'avez pas... Vous n'avez pas eu de réaction depuis, vous n'avez pas eu de coup de téléphone de Michel Moreau, vous ne l'avez pas appelé pour savoir sa réaction face
non.
à cet échec?
Non, on ne l'a pas sollicité parce que si on regarde l'interview qu'elle livre, elle reste bien sur le terrain municipal. Mm-hmm. Elle nous a parlé dans l'entretien qu'on a eu des élections départementales. On a choisi de ne pas en parler parce que on est contraint aussi par la place et il faut faire des choix. On a vraiment choisi de revenir avec elle sur l'année de mandat qui vient de s'écouler, la première année de mandat de Christophe Béchu. De son rôle au sein de cette majorité, de la manière dont Christophe Béchu a mené sa première année. On s'est concentré là-dessus, donc on l'a pas fait réagir sur le terrain des départementales, non.
Il faut rappeler qu'elle a travaillé, œuvré avec Jean Monnier et Jean-Claude Antonini avant d'être dans l'équipe de Christophe Béchu. Juste peut-être pour rappeler les bases, première adjointe, ça consiste en quoi? C'est quoi de plus qu'un adjoint classique, entre guillemets?
Ça dépend vraiment du rôle qui lui est dévolu. Avec Michel Moreau, c'était très clair, quoi. Et Christophe Béchu avait été extrêmement clair durant la campagne, quoi. Elle a un rôle extrêmement transversal dans cette municipalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle encadre un petit peu différentes politiques. Elle a la politique de la ville, notamment, la politique des quartiers, associative. Donc ça fait énormément de choses. Elle travaille en collaboration avec pas mal d'autres adjoints. Mais par contre, c'est elle qui chapeaute un petit peu le tout, quoi. Et puis alors, son rôle, c'était aussi d'expliquer la vie municipale, finalement, comment fonctionne une mairie, une collectivité, aux nouveaux élus. Il y avait beaucoup de nouveaux élus sur la liste de Christophe Béchu. Elle a une ancienneté, une légitimité, puisqu'elle était, vous l'avez rappelé, première adjointe de Jean Monnier un tout petit temps, et puis juste après de Jean-Claude Antonini dès 98. Donc voilà, il a fallu qu'elle remette les choses en place à l'arrivée de Christophe Béchu à la mairie d'Angers.
Elle dresse une drôle d'image de certains de ses collègues, Michel Moreau, dans votre article, dans votre interview. Je cite parmi ses collègues, celui qui d'emblée demande comment on se fait rembourser ses frais de restauration et qui se fait rappeler par le maire qu'il n'y a pas de prise en charge en dehors de l'indemnité. Vous l'avez senti amer, Michel Moreau, ou blasé ou
Non, absolument pas. Je pense qu'il faut lire l'interview.
Oui, bien sûr,
il faut continuer.
C'est une partie.
C'est une partie. Il faut continuer un petit peu où elle dit que pour l'instant, elle ne sent pas au sein de cette majorité de problèmes d'ego, de problèmes de... Elle dit qu'il faut se prémunir de ça. Après, ce qu'elle dit sur son collègue qui demandait sur les notes de frais, là, c'est plus ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire l'inexpérience. Finalement bien légitime. On ne peut pas réclamer d'un côté qu'il y a un renouveau du personnel politique et puis les accuser de manquer d'expérience de certains de ses collègues. Donc c'est ce qu'elle citait, mais c'était plutôt sur le ton de la boutade. Après, on sentait bien qu'elle avait à cœur que la majorité se prémunisse de ce genre d'attitude, quoi, et de toutes les guerres d'ego qu'il peut y avoir dans un groupe humain, voilà, tel qu'il soit.
On va poursuivre cette discussion, Sébastien Rochard. Ce sera juste après Michel Kiwanuka, et oui, avec You've Got Nothing to Lose.
Song, don't you? the trouble that keeps. Nothing will turn around. Nothing will move. Nothing will change your mind. You got nothing to lose. Son, don't you turn around. I got all that you need. Son, I got all that you need. Heavy, not light and free is the way that you feel. Open your eyes to see you've got nothing to lose.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir dans le sous-marin, on est avec Sébastien Rochard d'Angemag et on décortique l'actualité. Et dans ce numéro du mois d'avril, vous consacrez un article au service civique via l'association Unicité. Le service civique qui fête ses 5 ans cette année. Et en Maine-et-Loire, 140 jeunes sont ainsi volontaires. Est-ce que c'est en lien avec cet anniversaire que vous est venue l'idée de l'article ou alors c'est un hasard, un pur hasard ?
C'est plus un hasard. Après, on en avait entendu parler et le fait qu'il y ait un anniversaire nous a convaincus de faire le papier qui est signé par Yves Boiteau, le rédacteur en chef. Donc c'est plus la conjonction des deux événements, quoi. On en a entendu parler et puis c'est l'anniversaire. Donc voilà.
Initialement, les services civiques s'étaient créés notamment pour les jeunes en orientation ou en réorientation, comme Sarah qui est interviewée dans l'article. Mais c'est aussi aujourd'hui devenu un moyen pour les jeunes diplômés qui sortent d'école d'éviter le chômage en quelque sorte. Est-ce que Yves Boiteau, alors c'est compliqué puisque c'est pas vous qui étiez, qui avez écrit l'article, mais Yves Boiteau a eu ce sentiment-là que certains jeunes en service civique qu'il avait rencontrés étaient là pour éviter d'affronter tout de suite le chômage.
On en a forcément un petit peu parlé, mais je pense qu'il a surtout ressenti ça comme une espèce de tremplin vers le monde de l'emploi, quoi. Espèce de sas, alors soit de décompression après les études et avant d'entamer la vie professionnelle, soit voilà une espèce de marchepied qui peut amener vers l'emploi. Après, il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut, quoi. Il y a énormément de demandes, et puis, mais pas forcément les moyens au niveau de l'État qui sont déployés pour les mettre en place. Et je crois qu'il cite les exemples. Il y a 3 demandes sur 4 qui sont refusées actuellement, alors que François Hollande, au lendemain des événements de Charlie, avait indiqué que voilà, il aimerait bien que ça se multiplie. Je sais plus à combien il voulait monter le nombre.
150 000 par an.
Ouais. Voilà. Raisonnable. Après, il faut les moyens derrière. Ils sont pas payés extrêmement cher, un peu plus de 500 euros par mois, je crois.
573, ouais. Quelque chose comme ça.
Mais il y a pas les moyens qu'il faut. Donc voilà, ça pose question quand même. Mais ça veut dire qu'il y a de la demande et que les jeunes y voient un intérêt aussi.
Voilà un secteur où il semble peu probable de rencontrer des services civiques, celui de l'électronique, auquel est consacré votre dossier, à l'occasion de l'ouverture de la Cité des objets connectés en mai à Saint-Sylvain d'Anjou. C'est quoi la Cité des objets connectés ?
Eh bien, on découvrira ça au mois de mai, très précisément.
Bon, d'accord.
Non. Alors,
comment expliquer ça?
Déjà, peut-être replacer le fait qu'on n'a pas fait un dossier sur la Cité des objets connectés.
Non, et c'est ça, sur
c'était, ouais, c'était vraiment volontaire, quoi. Parce qu'on a le sentiment que la Cité des objets connectés, qui est issue de la Nouvelle France, du plan de la Nouvelle France industrielle, qui a été annoncé par Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, en juin 2014, je crois, attirait toute la lumière à elle. Or, l'électronique dans le Maine-et-Loire, et a fortiori dans la région, c'est quelque chose de beaucoup plus large que la Cité de l'objet connecté. Donc on voulait revenir sur ce terreau économique, savoir si il allait favoriser un renouveau. Ça, c'est pour la précision dans quel contexte on a situé notre dossier. Après, sur la Cité des objets connectés, c'est un projet privé. Ça, c'est déjà fondamental de le rappeler, puisqu'il y a eu quand même des tentatives juste après l'annonce de Montebourg, pas de récupération politique, mais on sentait bien que les politiques étaient très contents d'en parler et de communiquer autour de ça. Mais c'est un projet privé qui est principalement porté par un gros acteur de l'économie qui s'appelle Éolane, qui est présidé, dirigé par Paul Raguin. Voilà, c'est une mini-usine. Philippe Ménard, qui sera le futur directeur de cette Cité des objets connectés, aime bien ce terme, une mini-usine, où on va pouvoir développer des projets autour de l'objet connecté et en faire des mini-séries, des pré-séries, voilà, pour tester le marché et puis voir si ça peut fonctionner et à terme peut-être les industrialiser. Mais en tout cas, c'est des mini-usines pour des. C'est plus qu'un Fab Lab parce qu'on va jusqu'à la production en petite série, mais c'est pour développer autour de l'objet connecté tout un microcosme qui va permettre au créateur de projet d'aller jusqu'au bout de son projet, s'il est valable, et puis de le mettre en circulation si derrière ça répond, quoi.
Vous rappelez dans l'ouverture du dossier qu'il fut un temps, pardon de dire ça, mais que les moins de 20 ans ne peuvent sans doute pas connaître, où Angers a accueilli Packard Bell, Thomson, entre autres, et qu'on a oublié ce temps-là suite aux fermetures d'usines. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec cette cité et avec tout le terreau dont vous avez parlé tout de suite, Angers devienne une ville de l'électronique, un peu comme elle est aujourd'hui étiquetée ville végétale?
C'est le pari qui est pris. Notamment au niveau politique, je vous disais que les politiques se sont saisis de ça ils ont sans doute raison de le faire. Alors il faut noter que sur ce dossier-là, notamment, il y a une espèce de collaboration entre droite et gauche, qui n'est pas tout le temps le cas sur les différents dossiers, mais le député Luc Belot du Parti Socialiste est vraiment très investi sur ce dossier-là, et a priori ça marche main dans la main avec Christophe Béchu, avec la municipalité, c'est-à-dire que le maire Christophe Béchu n'a jamais caché que le végétal était une priorité pour le territoire. Il avait aussi dit dans sa campagne que l'électronique en était une, mais il ne savait pas exactement quel type d'électronique. Donc c'est un petit peu tombé du ciel, cette nouvelle France industrielle, cette cité de l'objet connecté. Donc ils vont mettre tous les moyens là-dedans pour développer l'électronique sur le territoire, mais sur le biais cité des objets connectés. Et ils marchent main dans la main là-dedans avec le privé, la difficulté étant que le temps du politique et de l'action publique n'est pas forcément le même temps que celui de l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, les privés aimeraient que ça aille sans doute beaucoup plus vite. Mais c'est un des leviers d'avenir peut-être pour le territoire. Il faut voir comment ça va fonctionner. Parce que c'est tout nouveau, ça n'existe pas ailleurs. Voilà, l'autre chose, c'est que si ça fonctionne à Angers, la cité de l'objet connecté, le but c'est d'en développer d'autres ailleurs, sur le même format. Donc faire d'Angers, Angers restera la première, mais est-ce qu'elle sera la seule où ça fonctionne? Et identifier cité de l'objet connecté, c'est une autre question, quoi.
On passe de l'électronique à l'électro tout court. Vous consacrez votre rubrique « C'est qui celui-là ?» à William Reusé, alias Tilassine. Il a été chroniqué dans les Inrocks, dans Tsugi. Il est passé là au Grand Journal, c'était mardi je crois. Pourquoi lui tirer le portrait maintenant?
Parce que c'est un personnage dont on entend parler depuis un petit moment maintenant. Il fait partie des espoirs 2015 du Shabada, et Angers Mag est partenaire de cet événement. Après, c'est le sens de votre question, c'est que c'est plus un espoir, quoi, et qu'il est déjà connu, quoi. En gros.
Bah, le sens de ma question, c'est que la rubrique est intitulée « C'est qui celui-là ?» et que déjà, on a eu pas mal de réponses.
Ouais.
Et ouais. Je me demande, la question, c'est pourquoi est-ce que ça arrive aussi tard?
Alors,
c'était peut-être juste de l'opportunité.
C'était l'opportunité. Alors, il faut savoir qu'on l'a. C'est un jeune homme qui a de la mémoire en plus, parce qu'on avait chroniqué son tout premier EP. Je crois que c'était 2012, fin 2012. Il s'en souvenait, c'est pour ça qu'il nous a répondu aussi rapidement, parce que c'est un... William n'habite plus du tout à Angers, il habite à Paris maintenant, et il est par Mons et par Vaux, quoi. Ça cartonne pour lui, effectivement. Après, je suis pas sûr que dans la rue, vous demandez à quelqu'un, vous faites un micro-trottoir, hein, c'est super, un micro-trottoir, vous croisez une vingtaine de personnes dans la rue, revenez, dites-moi combien connaissent-ils la Cine, quoi. Donc, il nous semblait important de le faire connaître encore plus. Alors, au-delà de ça, parce que c'est un personnage super intéressant, quoi.
C'est la question que j'allais vous poser. Qui est-il la Cine? Qui est William Rezé? Qui avez-vous rencontré en termes de caractère de...
C'est un jeune homme qui a 23 ans et qui peut paraître en avoir 40 ou 45, pas du tout physiquement, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Par contre, il a déjà eu pas mal de vie, c'est surtout quelqu'un d'extrêmement posé et réfléchi. Et qui finalement, quand on lui dit ça vous tombe un peu dessus comme ça, tout tombe en ce moment, lui, il n'a pas du tout cette impression-là. Il a dit, moi, ça fait 5-6 ans que je développe mon projet, parce que c'est quelqu'un vraiment qui fonctionne sur du projet. Tilacine, c'est un projet en tant que tel. Donc voilà, c'est extrêmement mûri, réfléchi. C'est un entrepreneur de la musique, et il n'a pas peur de ce mot-là. Il dit, à un moment, il faut se renseigner sur le microcosme dans lequel on vit. Donc il s'est entouré des... Il est parti sur Paris il y a 2 ans maintenant, pour s'entourer des bonnes personnes, selon lui. Et donc, il a monté son projet comme ça, et il commence à récolter les fruits de tout ce qu'il fait. Effectivement, il est dans tous les festivals, les gros festivals qui s'annoncent, il y est, et il développe des projets super intéressants, quoi. Donc, la reconnaissance, pour lui, c'est pas forcément quelque chose d'important. Lui, il veut avancer, il veut proposer d'autres choses autour de la musique, mais ça peut être totalement différent de la musique. Il a mené un projet avec le Centre Georges Pompidou, qui va bien plus loin que la musique. Là, il va partir dans le Transsibérien, pour enregistrer durant 10 jours les sons du train, créer sa musique à lui, compiler tout ça, et puis sortir quelque chose à l'arrivée à Vladivostok. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est un gros, gros bosseur, qui a réfléchi son projet, qui l'a mûri aux Beaux-Arts. Et moi, ce qui m'a drôlement intéressé, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes aux Beaux-Arts qui s'y perdent un petit peu, finalement. Lui, c'est le contraire. Ça l'a totalement construit. C'est-à-dire que les Beaux-Arts, il nous le dit très bien, on déconstruit tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il savait. Et il a reconstitué un puzzle avec tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il a appris, et est sorti de ça, Tilacine. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau projet, un chouette personnage, très calme, très posé, donc une belle rencontre.
Pour finir, Sébastien Rochard, est-ce que je peux vous demander, comme souvent, un petit mea culpa, un article que vous auriez aimé traiter différemment ou traiter tout court, et voilà.
Ouais, c'est traiter tout court. Après, c'est un mea culpa qu'on peut avoir tous les mois, mais c'est encore plus vrai au printemps. Parce qu'il y a vraiment un foisonnement culturel au printemps. Et effectivement, on doit avoir 5-6 pages culture, mais il faut faire des choix. Il y a plein de festivals dont on aimerait parler, alors qui sont passés peut-être, mais qui vont venir. On n'a pas du tout parlé de Singer Must Die, par exemple, c'est dommage. On en avait parlé avant.
Qui joue ce soir, d'ailleurs.
Oui, il joue ce soir. Au Grand Théâtre. Ça va être vrai dans le numéro à venir. Je sais qu'on va avoir des regrets, parce que on a fait nos choix, ça y est, on sait ce qu'on va traiter, mais on sait qu'on va laisser pas mal de monde sur le bord de la route. Alors, on les traitera sur le web, on y reviendra peut-être plus tard, mais le foisonnement culturel fait, et les choix qu'on doit faire, fait que, voilà, on oublie pas mal de choses. On les oublie pas vraiment, mais on peut pas les traiter, ça c'est dommage.
Et puis, peut-être pour finir, ce dont vous êtes le plus fier, là, ce mois-ci, sur le web ou dans le papier?
C'est difficile comme question, j'y ai pas réfléchi en plus.
Ah mince.
Sur le Mac papier?
Ou sur Internet?
Ouais. Sur le Mac papier, je pense que c'est... la thématique, j'en conviens, n'est pas forcément très sexy, l'électronique, le renouveau angevin, mais on a bien bossé dessus, avec un peu de temps, et voilà, on a le sentiment que notre dossier tombe au bon moment, un peu plus d'un mois avant l'ouverture de la Cité des Objets Connectés, voilà, qu'on pose les termes du débat, et puis ça peut être une bonne nouvelle économique, ça c'est l'avenir qui le dira, et voilà, être au début d'une bonne nouvelle économique, ça fait toujours du bien aussi, dans le contexte actuel.
Merci beaucoup Sébastien Rochard d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
c'était Gomina avec Sunscone.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et toujours ce super accent anglais. Tout de suite, on retrouve Louise pour sa première chronique sous-marine. Salut Louise.
Salut.
En fin de semaine dernière, la RATP s'est attiré les foudres de la classe politique française. Pourquoi ? Pour avoir opposé le principe de neutralité du service public afin d'interdire des publicités annonçant un concert du groupe Les Prêtres, les affiches présentant la mention au bénéfice des chrétiens d'Orient. Après s'être fait sermonner par le Premier ministre lui-même, la RATP devait finalement renoncer lundi et autoriser l'affichage.
Alors finalement, moi, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, c'est l'unanimité avec laquelle les hommes politiques ont condamné la décision de la RATP. Ça semblait tellement bébête, pour reprendre l'expression du député UMP Thierry Solaire, de s'en prendre à des prêtres chanteurs de variété, que personne n'a vraiment pris la peine d'expliquer pourquoi l'argument laïque de la RATP était si absurde. Car finalement, en quoi est-ce bien différent de la controverse de crèches de Noël retirée des conseils généraux cet hiver ? Est-ce parce qu'après tout, il ne s'agissait que du concert d'un groupe de variété, qui s'avérait être prêtre de manière tout à fait incidente ? Parce que les chrétiens d'Orient, mentionnés sur l'affiche, sont des personnes comme vous et moi, victimes d'une guerre, et pas des représentants d'une organisation prosélyte ? Mais si la mention était « au bénéfice de l'Église orthodoxe orientale », s'il s'agissait d'un événement organisé par l'Église en soutien aux chrétiens d'Orient ? Finalement, au vu de la pratique française de la laïcité, il ne manquait pas grand-chose pour que l'affaire soit défendable au tribunal administratif. Parce qu'effectivement, la laïcité française est un peu bébête, et surtout appliquée de manière un peu incohérente. Petit rappel, la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État. L'État n'a pas de religion. Par conséquent, les citoyens sont libres de pratiquer le culte de leur choix, de ne pas croire du tout, et même de croire aux extraterrestres. Par conséquent, les préceptes religieux n'ont aucune valeur légale. Les convictions religieuses sont des idées comme les autres, soumises au débat citoyen, et qui doivent respecter les normes supérieures, la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Vous l'aurez compris, la laïcité concerne l'État, pas les gens. Alors les hommes politiques qui disent qu'il y a un problème de laïcité parce qu'ils ne sont pas contents de voir la caissière du Shopee avec un voile sur la tête, ils peuvent relire leur cours de droit première année. Est-ce que tu te rappelles, Tiffaine, l'affaire de la crèche Bibilou ? Toutes ces pérégrinations juridiques n'avaient qu'un seul but, savoir si oui ou non cette crèche pouvait être considérée comme un service public. Parce que vous l'ignorez peut-être, mais en France, à moins d'être un fonctionnaire, votre employeur n'a aucun mot à dire sur votre tenue vestimentaire, vos éventuels signes religieux, ni même vos piercings ou vos tatouages. À moins que la nature de votre tâche l'ordonne. Voilà donc ce qu'est un État laïque, un État neutre du point de vue confessionnel, qui reconnaît la liberté religieuse et l'autonomie de conscience de ses citoyens. En Europe, tous les États sont laïques et partagent ces valeurs. C'est-à-dire que même dans les pays les plus catholiques comme l'Irlande, il est juridiquement possible de voter une loi ouvrant le mariage aux personnes homosexuelles, par exemple. Toutefois, la laïcité telle qu'on la pratique en France est un peu une exception, une laïcité poussée à l'extrême. En France, on fait du zèle. On ne se contente pas d'un État neutre. En France, on interdit carrément aux religions d'exister dans l'espace public, y compris à travers les croyants eux-mêmes. Comme si la religion était au mieux quelque chose de trop intime pour être montré, au pire quelque chose d'obscène. Dans les autres pays, le rôle social qu'ont les religions est reconnu. De nombreux organismes sociaux, éducatifs, culturels en dépendent. Dans ces pays, il est possible de manquer l'école pour cause de célébrations religieuses, de refuser de pratiquer un avortement ou de faire son service militaire en invoquant sa conviction. Au Royaume-Uni, si un policier sikh veut remplacer son casque par un turban, il peut le faire. En France, on pousse la laïcité jusqu'à empêcher le recueil d'informations sur les croyances des citoyens. Allez en parler aux chercheurs en sciences sociales. On est aussi le seul État d'Europe à ne pas proposer de cours dédiés à l'étude des religions dans les programmes scolaires, et même à cautionner le renvoi d'une collégienne parce que la façon persistante dont elle portait son bandana laissait vraiment trop penser qu'il s'agissait d'un foulard islamique. D'ailleurs, est-ce que le fait qu'un agent de l'État montre son appartenance à une religion peut vraiment porter atteinte à la neutralité de tout un service public ? Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience d'être dans un régime poussé à l'extrême. Tout nous paraît aller de soi alors qu'il y a de vraies questions à se poser. Bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en cause l'acquis de la sécularisation, et un régime de séparation trop souple a lui aussi ses dangers. Pour savoir où se situe la limite, il suffit de se rappeler que faire le choix de la neutralité, c'était faire le choix du vivre ensemble. Dès lors qu'on lèse plus qu'on ne protège, c'est qu'on est dans l'erreur. Donc finalement, la RATP aurait mieux fait d'invoquer son devoir de réserve au vis-à-vis de la musique ringarde. Ça lui aurait évité bien des tracas.
Merci Louise.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
À partir de vendredi et pendant une semaine, Angers enfile son chapiteau. Le festival Cirque fera bouger le quai pour sa 8e édition. Au menu, 8 spectacles, des stages, mais aussi du cinéma et quelques concerts. Et dans cette dense programmation, Étienne Saglio, qui connaît déjà le festival pour y être passé il y a quelques années, présentera Les Limbes. Quentin lui a donc téléphoné pour plonger avec lui dans son univers.
Bonjour Étienne Saglio, vous êtes jongleur magicien. Vous êtes entré à l'âge de 17 ans au Centre National des Arts du Cirque, puis au Lido à Toulouse. Vous allez présenter votre spectacle intitulé Les Limbes au quai à Angers, le mardi 14 et le mercredi 15 avril prochain, dans le cadre du Festival Cirque. C'est votre seconde venue après avoir présenté votre premier spectacle, Le Soir des Monstres. Avec ce spectacle, vous vous enfoncez donc dans les limbes. Quelle est la genèse de cette idée ?
À la base, en fait, c'est pas vraiment une idée. À la base, c'est surtout une intuition, c'est-à-dire, je sais pas moi, je vais sur scène pour chercher des images qui me hantent. Donc voilà, je suis allé chercher des idées pour un nouveau spectacle, mais j'avais un bout de plastique qui traînait, un manteau rouge, une épée, puis un crâne en mousse. Donc je suis allé avec ça parce que j'avais ça sous la main. Et en fait, ensuite, j'ai décliné et finalement, je me suis plongé dans ces images-là. Mais ça part pas d'une idée ou d'une démarche intellectuelle à la base, c'est quelque chose de très intime, l'intuition.
Dans la note d'intention des limbes, vous vous présentez comme tantôt spirit, tantôt nécromancien. Cet attrait pour l'au-delà est-il réel ou créé pour le spectacle ?
Alors, je ne me présente jamais comme spirit ou nécromancien. En fait, il y a quelqu'un qui a fait un petit texte pour présenter mon spectacle et qui a trouvé qu'il avait envie de me définir comme ça. Mais du coup, moi, je me définis pas du tout comme ça. Donc,
Vous définiriez comment, alors ?
Moi, je suis magicien, voilà. Je fais des spectacles de magie. Je crée de l'émotion grâce à la magie. Et voilà. Après, il se trouve que dans ce spectacle-là, ça travaille effectivement sur des idées... c'est des images d'après la mort, ça, c'est sûr. Mais l'idée, c'est de mettre une vraie distance, comme dans les contes, d'avoir voilà quelque chose qui est, c'est pas dans le réel, c'est vraiment éloigné, c'est des images qu'on connaît et en même temps qui sont des images communes à tout le monde, des représentations classiques de la mort, pour que ce soit pas trop violent. J'ai pas envie d'infliger aux spectateurs mes angoisses ou voilà. Et en même temps, toutes ces images qu'on connaît tous, et ben j'essaie quand même d'y mettre de l'intime, de mettre des choses à moi à l'intérieur, mais c'est en arrière-fond. Voilà.
Pourquoi cette thématique alors de l'au-delà?
Ben ça m'intéressait de, en fait, bon, il y a très peu de choses qui, à ce point-là où on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne sait pas comment ça se passe, on n'en sait rien, un grand mystère comme ça, la mort, qu'est-ce qu'il y a après, ben moi je trouve ça assez fou. Et quelque chose qui est impossible à imaginer, bah l'impossible, en fait, c'est le domaine dans lequel je travaille, puisque je suis magicien. Donc mon travail, c'est justement de questionner l'impossible, d'aller titiller ça à l'impossible. Et donc je me suis dit qu'en tant que magicien, j'avais envie de travailler sur la mort, parce que forcément c'est un endroit incroyable. Voilà. Après, de toute façon, je pense que quand on fait des spectacles, la peinture, du cinéma, n'importe quoi, quand on est artiste et qu'on crée des spectacles, il y a un moment où on se pose un peu cette question-là, forcément, que ça travaille tout le monde, à différentes périodes de la vie, voilà. Ouais.
Dans votre spectacle, vous baladez, vous exposez un peu des spectres. Comment vous les mettez, comment le mettre au cœur du spectacle, en fait, ces spectres ?
Alors, étant magicien, toutes les questions qui commencent par comment, je m'en méfie pas mal.
Oui, non, c'est pas
j'ai
pour...
tendance à répondre, voilà. À répondre de façon un petit peu filou. Voilà, en fait, moi, c'est surtout pourquoi, parce que voilà. Le comment des trucages, c'est pas évident à répondre, parce que je veux pas donner de pistes sur la technique et tout ça, parce que moi, mon métier, c'est de faire de l'illusion, et si si je commence un peu à raconter comment ça marche, en fait, ça va s'appeler la désillusion. Et c'est une émotion que j'ai pas envie de oui. transmettre aux gens. Donc voilà. Après, effectivement, le personnage est entouré de spectres, de fantômes, de méduses. On y voit un peu ce qu'on veut. Il prend différentes formes. Des fois, il se multiplie. Des fois, il devient une grande bâche très douce. Des fois, ça devient un petit peu plus plus agressif, une bataille. C'est vraiment une espèce de d'évolution comme ça, et pour moi ça représente un peu l'âme de ce personnage là comme une représentation de son âme qui des fois s'en va, des fois lui rentre dans le ventre, des fois essaye de l'enrouler tranquillement. Voilà.
Votre spectacle donc nous plonge dans un univers assez sombre, mais il est pourtant tout public. Quelles sont en général les réactions des enfants face au Limbe?
En fait, il est assez sombre, mais il est très doux. Il y a aucune. Les images sont vraiment très douces. On est dans la pénombre, effectivement, au niveau lumière, et ça parle de la mort. Donc, ça fait quelque chose de, on pourrait dire, effectivement, de sombre. Ce qui est amusant, c'est que j'ai déjà joué pour des scolaires avec des enfants, avec 300 enfants qui avaient entre 6 et 8 ans. Donc, vraiment très. Voilà, et il se trouve que moi, j'étais pas sûr du tout. Normalement, on dit plutôt que c'est un peu plutôt pour 9 ans, 8, 9 ans, 10 ans. Et là, en fait, les enfants n'ont pas la même représentation de la mort que les adultes. À des endroits où les adultes, il y a des scènes qui les impressionnent et qui leur font un peu peur parce qu'elles représentent pour eux la mort, des enfants ne verront absolument pas la même image et trouveront ça très drôle. Voilà. Il y a un moment où le personnage, par exemple, commence à il y a plein de fantômes qui l'entourent, qui l'attaquent le visage, et il commence à avoir un visage qui ressemble à sa marionnette, donc un visage sans cheveux, vraiment un peu étrange. Et les enfants, à la fin du spectacle, m'ont dit c'était vraiment trop marrant quand les méduses elles t'ont enlevé les cheveux. Ils voyaient aucune représentation de la maladie, de la vieillesse ou de la mort. Et donc voilà, ils ont une autre lecture, vraiment comme dans les contes en fait.
Dans la presse, on vous qualifie de tête pensante de la magie nouvelle, un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel. Qu'est-ce que la magie nouvelle, en fait, pour vous ?
La magie nouvelle, eh ben, vous venez de redonner la définition, je peux la redonner encore. La magie nouvelle, c'est un art qui aurait pour langage le détournement du réel dans le réel. Et ça, cette définition-là, c'est une citation. C'est la vraie tête pensante de la magie nouvelle qui s'appelle Raphaël Navarro, qui est magicien et qui a vraiment théorisé toute cette idée de magie nouvelle. Et on a écrit le spectacle ensemble. On avait travaillé précédemment sur le sort des monstres ensemble aussi. Donc voilà, je fais partie des gens qui avancent avec cette idée de magie nouvelle. Mais je n'arrête pas de citer et de travailler avec Raphaël Navarro. En vrai, que ce soit à nouveau ou pas, on s'en fout un petit peu pour le grand public. C'est pas très important. Quelqu'un qui vient voir des tours de cartes et des lapins dans des chapeaux, s'il vient voir mes spectacles, il va être un petit peu étonné au départ, mais il va y trouver son compte parce que c'est des spectacles extrêmement magiques. La magie nouvelle défend vraiment une vraie émotion magique avec beaucoup de techniques magiques pointues. Après, l'idée, c'est surtout de le faire reconnaître comme un art à part entière et que on puisse jouer dans les mêmes circuits économiques, c'est-à-dire dans des beaux théâtres comme à Angers, et pouvoir par exemple, pour les Limbes, on a 2 jours de montage, et ça, ce serait impossible dans un circuit privé. Donc on a vraiment revendiqué la reconnaissance de cet art à part entière, quoi.
À quel moment on se dit que je veux être magicien ?
En fait, moi j'ai commencé par me dire je veux être jongleur. Voilà, donc j'ai jonglé. Et puis j'ai commencé à lancer mes balles un peu dans tous les sens, beaucoup, de plus en plus de balles. Et puis à un moment, en fait, j'ai commencé à me dire que ce serait pas mal si elle volait un peu plus longtemps que ce que... Voilà, en tant que jongleur, je me bats avec la gravité, elles font que retomber ces balles. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la magie à ce moment-là, en fait, quand je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir m'aider de la magie pour combattre la gravité. Et à ce moment-là, il y a aussi une blessure qui m'est arrivée et je pouvais plus jongler pour avoir mon diplôme. Le jour de mon diplôme, je me suis cassé le doigt, en fait, juste avant mon diplôme. Et donc, je n'avais plus le droit de jongler pendant un mois, juste au moment de mon diplôme. Donc, à ce moment-là, j'ai travaillé avec la magie et j'ai fabriqué un numéro de dressage où j'apprenais à mes balles à voler pour pouvoir jongler quand même à 5 balles, mais sans... Elles avaient des ailes et comme ça, elles se débrouillaient. Donc, c'est comme ça que la magie est arrivée dans mon travail.
Depuis 8 ans que le festival Cirque existe à Angers, diriez-vous qu'il a fait ses preuves, qu'il est reconnu dans le monde circassien ?
Un festival comme le Festival Cirque, ce qui est important dans des festivals comme ça, c'est de bien voir qu'il y a des créations. Ça veut dire que c'est des programmateurs qui, à un moment donné, prennent un risque. C'est-à-dire que les gens qui m'ont programmé à Angers, par exemple, n'ont pas vu le spectacle, ou ils l'ont vu là, il n'y a pas très longtemps, mais quand ils ont acheté le spectacle, ils ne l'avaient pas encore vu. C'est-à-dire qu'il était en création, et c'était une façon de me soutenir. Et donc, ils m'ont même coproduit d'ailleurs, ils m'ont même donné de l'argent pour que je puisse créer ce spectacle. Donc ça, c'est important dans la qualité d'un festival, le public ne se rend pas toujours compte de ça, mais c'est un spectacle qui vient d'être créé, il y a une fraîcheur aussi, il y a quelque chose d'intense, et c'est aussi une vraie prise de risque esthétique des programmateurs, et ça, c'est très admirable, et on a besoin de ça en tant qu'artiste pour pouvoir créer des spectacles.
Et dernière question maintenant, est-ce que vous avez déjà des idées pour un nouveau spectacle ?
Alors, j'ai des idées qui arrivent, pas pour un nouveau spectacle, mais je travaille actuellement dans le spectacle. Vous verrez, il y a une espèce de grosse baleine à la fin, une espèce de baleine en plastique. Et je me dis que c'est dommage de la réserver qu'au théâtre. Donc, je suis en train de travailler pour qu'elle puisse voler dehors. Voilà. Oh. Qu'elle puisse aller la nuit dans la ville, se balader. Voilà sur quoi je travaille en ce moment.
D'accord. Bah, je vous remercie alors,
Étienne Saglio.
Et merci d'avoir répondu à nos questions. Et bon spectacle et bonne représentation.
Merci.
Les Limbes d'Étienne Saglio, c'est un spectacle à voir mardi soir 14 et mercredi soir 15 avril. Et le festival Cirque au Quai commence donc ce vendredi jusqu'au vendredi suivant. Toute la programmation est à retrouver sur le www.lequai-angers.eu.
Blocks, ice cream, save the queen. Won't you have a cup of tea? Chimney pots, corner shops, Land's End, Brighton Rock, rich girls looking for kicks, fast boys on the slick. You watch your neighbours, naughty capers, Saturday's antics in the Sunday papers. You say the water in Mallorca, it don't taste quite like you know it ought to. My head is filled with words and vision. Don't
c'était les Rival avec Glory Days.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est le débarquement du Sonic Protest au Chabada à partir de 20h30, première date angevine du festival avant celle de dimanche au Terroc Coco. Et pour plus de détails, rendez-vous sur le www.radiocampusangers.com pour réécouter l'interview de Florian Tossiti diffusée hier soir dans le sous-marin. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Hier soir dans Ta gueule Coubertin, Florent nous a parlé de l'UFAB, du basket féminin en somme.
Après le SCO il y a un mois, les Ducs la dernière fois, forcément maintenant, place au basket. Et au basket angevin parce que moi je fais du local, n'est-ce pas Julien? Mais j'ai pas envie de parler des mauvaises choses, donc je suis désolé mais je vais oublier l'ABC. Malheureusement pour eux, la descente en fin de saison semble inévitable. L'apprentissage de la Pro B aura été trop difficile pour les hommes de Vincent Lavandier qui se sont une nouvelle fois inclinés ce week-end contre Évreux. En revanche, un autre club de la ville a fait forte impression cette saison.
Bon alors je suis un peu surpris que tu nous parles pas du SCO, mais je suppose que tu vas nous parler de l'UFAB alors.
C'est ça, l'Union Féminine Angers Basket, pour ceux qui n'auraient pas compris. Le club présidé par Brito de Souza ne cesse de grandir au fil des années. Assez impressionnant lorsque l'on sait qu'il y a 10 ans, le club venait tout juste d'être créé. Pour faire simple, l'UFAB est né de la fusion de deux clubs, l'Anjou Basket Club et l'Étoile Sportive Saint-Léonard d'Angers.
Et côté histoire, ça fait combien de temps qu'elles sont parmi l'élite ?
C'est leur deuxième saison seulement, mais c'est quand même assez énorme pour le club qui a rapidement su évoluer. En 2010, l'équipe rejoignait déjà la Ligue Féminine 2, mais n'arrivait pas à se maintenir et était donc contrainte de retourner en 3ème division. Mais cela a servi de déclic puisque les deux années qui suivent sont synonymes de montée pour arriver jusqu'en Ligue Féminine, qui est donc l'équivalent de la Pro A, donc qui représente les meilleures équipes du basketball féminin français.
Et encore, elles auraient même pas dû y jouer la saison dernière, je crois.
Ouais, il y a eu quelques problèmes pour valider leur montée. La Fédération Française de Basket avait dans un premier temps interdit l'accession de l'UFAB en première division à cause d'un centre d'entraînement qui n'était pas homologué.
Ta gueule Coubertin, c'est à retrouver sur le www.radiocampusangers.com. Et dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Pas de panique, l'émission geek du 103FM. Salut, Psyker.
Bonsoir Tiffen.
De quoi vous allez nous parler, bande de geeks, à 20h?
Ce soir, une émission consacrée à la poésie, aux jeux poétiques, aux pixels colorés. Voilà, on fera un détour par plusieurs œuvres qui ont inspiré des jeux ou dont les jeux s'inspirent.
De la poésie dans les jeux vidéo, c'est tout de suite. Non, pas de panique, merci beaucoup Psyker. Merci aussi à Louise, à Quentin et à Thomas. Merci à Maëlle pour la réalisation. On se retrouve demain à 20h, on parlera d'agriculture. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.